poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Pour savoir écrire, hein, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Aujourd'hui, dans la librairie de Guy Debord, côté poésie, etc.
Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s'enfonce tout entière. Ah, le beau torpillage! Et moi, que suis-je devenu au milieu de ce désastreux naufrage que je trouve nécessaire, auquel on peut même dire que j'ai travaillé, puisqu'il est assurément vrai que je me suis abstenu de travailler à quoi que ce soit d'autre. Ce qu'un poète de l'époque Tang a écrit en se séparant d'un voyageur, pourrais-je l'appliquer à cette heure de mon histoire? Je descendis de cheval, je lui offris le vin de l'adieu, et je lui demandai quel était le but de son voyage. Il me répondit, je n'ai pas réussi dans les affaires du monde. Je m'en retourne au mont Nanshan pour y chercher le repos. Mais non, je vois très distinctement qu'il n'y a pas pour moi de repos. Et d'abord parce que personne ne me fait la grâce de penser que je n'ai pas réussi dans les affaires du monde. Mais, fort heureusement, personne ne pourra dire non plus que j'y ai réussi. Il faut donc admettre qu'il n'y avait pas de succès ou d'échec pour Guy Debord et ses prétentions démesurées.
Laurence Lebras, Christian Le Garouet, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
À tous les deux. Pour ouvrir ces lectures par-dessus l'épaule de Guy Debord, sa voix, qui accompagne un extrait d'Ingerum Imus Nocte et Consumimur Igni, son dernier film réalisé en 1978, hein, qu'on pourrait traduire par « Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ». Que vous dit d'ailleurs cette voix, ce choix de cette voix monocorde de Laurence Lebras? Est-ce que ça dit une époque? Est-ce que ça dit un rapport au langage?
Ça dit un rapport au langage. Guy Debord était très attaché à la poésie du langage et à la sonorité du langage. Et cette voix qui dit si bien les textes, à la fois son commentaire comme les citations qu'il utilise au sein de ses commentaires, traduit aussi son attachement à la littérature classique. Cette littérature classique dont il nous livre de nombreux relevés de citations à travers ses fiches de lecture, dont le volume Poésie, etc. est le deuxième publié dans une série de 5 volumes. Et cette littérature classique, elle traverse l'ensemble des thèmes qu'il développe dans ses relevés de citations, autant la stratégie que la poésie, l'histoire, la philosophie. Il est attaché à cette littérature classique aussi parce que c'est celle qui, pour lui, appartient à ce monde non falsifié. Le rattache à ce monde, le ramène à ce monde non falsifié, ce monde où le langage n'était pas encore complètement subverti par la société spectaculaire et les mécanismes de la société spectaculaire.
Vous êtes encore surpris par la douceur de cette voix, Christian Le Garouet?
Ému, et je pense que l'émotion est justement ce que la poésie est chargée de garder, en même temps que la poésie était, je pense, pour lui le moyen de trouver des précédents dans le sentiment de révolte qu'il a habité dès qu'il était jeune. La poésie commence avec ses lectures d'adolescent, avec l'autre et amont dont il parle beaucoup dans ses lettres à son ami Falcou. Donc cette émotion, elle est conservée par le langage grâce au poète, et l'émotion, c'est ce qui permet effectivement aussi d'échapper à la falsification.
Alors, on va évidemment revenir à son lien à la poésie. Laurence Lebras, vous êtes conservatrice au département des manuscrits de la BNF. C'est vous, avec la collaboration notamment de Christian Le Garouet, qui avait entrepris depuis 2018 cette copieuse, précise, très élégante d'ailleurs, il faut le dire. Ils sont très beaux, ces livres. Édition en plusieurs volumes des fiches de lecture, une sorte de librairie intérieure comme ça de Guy Debord aux éditions de L'Échappée. Avant de parler peut-être un petit peu plus avant de ce lien souterrain avec la poésie chinoise, un mot sur ce qu'on vient d'entendre, hein, sur cet extrait qu'on vient d'entendre, qui pourrait être une illustration de ce que ces fiches de lecture de Guy Debord nous disent du processus d'écriture et du processus de pensée de Debord.
Ce qu'on vient d'entendre précisément dans l'extrait d'Injirum nous ramène plutôt au lien qu'entretient Guy Debord avec la figure de Lippo et tout ce qu'incarne la figure de Lippo. Lippo, donc ce poète le plus emblématique de l'époque des Tang, et quand il le lit, alors il est difficile de savoir à quel moment précisément il s'est intéressé à la poésie chinoise. Je crois que vous voulez
on va y revenir après, mais en fait c'était vraiment plus sur cette façon qu'il a effectivement de citer et de commenter qu'on va retrouver finalement dans l'organisation même de ces fiches de lecture.
Alors oui, là, vous mentionnez la pratique du détournement qui est très largement utilisée par Guy Debord donc dans l'écriture de ses œuvres. Il va puiser dans ses lectures des citations qu'il réutilise telles quelles ou détournées, et les fiches de lecture elles-mêmes portent la marque de cette utilisation, puisqu'il y indique des titres d'œuvres comme pour Société du spectacle, pour Apologie, pour International Situationniste, quand il s'agissait de la revue International Situationniste. Donc l'utilisation de citations est un procédé qui est récurrent dans l'ensemble de ses œuvres.
Vous diriez, Christian Le Guerouis, qu'au fond, tout Debord est dans ses fiches?
C'est plus qu'un procédé. Pour moi, c'est extrêmement important. Le passé est un vivier pour lui, qui étaye. Ce sont des figures prestigieuses qui étayent son propre positionnement existentiel dans le présent qui est le sien. J'aime à dire personnellement que le fait qu'il n'ait pas eu de père, ça expliquait que il n'a pas eu de père pour lui transmettre quelque chose, et finalement toutes ses œuvres lui transmettent ce dont il n'a pas eu transmission par le canal de ses grands esprits, de ses grandes âmes, de ses grandes sensibilités. Il se reconnaît en elle, donc le détournement est un hommage et aussi la reconnaissance envers des personnes mortes qui, comme l'a dit lui-même aussi Pascal Quignard, qui forment une communauté qui peut être difficile d'établir dans le présent justement. Donc il y a la communauté des morts qui sont toujours actifs justement parce que leurs paroles, alors que eux-mêmes sont morts, ils ont formulé une parole qui est toujours active dans le moment où on les lit. Et donc c'est cette reconnaissance d'une coïncidence, de quelque chose qui est toujours vivant, à quoi il rend hommage par ses citations.
Alors on va peut-être juste un peu imaginer matériellement à quoi ça ressemble ces fiches de lecture, hein, puisque vous y avez eu évidemment accès au département des manuscrits, paru il y a quelques temps déjà, il y a un volume donc qui nous intéresse particulièrement, et pas seulement parce que cette émission lui doit presque son titre, qui est donc Poésie, etc., qui est un titre choisi par Debord, qui classait donc ses fiches de lecture en dossiers thématiques. Donc il y a là Baudelaire, Bossuet, Rimbaud, Breton, Pessoa, Hölderlin, Apollinaire, Khayyam, mais aussi Balzac, Musil, Cervantes, Pascal, l'Ancien et le Nouveau Testament, Chateaubriand, ou même l'historien Lewis Mumford, tous lus, prélevés en citation, commentés, soulignés, parfois en suggérant une piste de rapprochement, hein, par exemple justement entre les poètes de l'époque Tang à Laurent de Médicis, ou le rapprochement avec Ronsard, ou Stendhal et Pompidou, parfois en précisant la destination possible de ces citations et réflexions dans tel ou tel projet d'écriture ou même de film. C'est peut-être moins le « etc. » qui pose question ici, parce qu'on comprend bien ce qui se loge dans cet « etc. », que le terme même de poésie. Finalement, qu'est-ce que Debord nomme poésie ?
Laurence Alors, Lebrun. Il ne désigne absolument pas un genre. Ce ne sont pas, comme vous l'avez dit, exclusivement des poèmes. Il désigne plus précisément le terme poésie désigne plus précisément une façon de lire les textes dont il dont il relève les citations. Ce qui rassemble l'ensemble des genres cités, le roman, le théâtre, la poésie, à la fois la poésie épique d'Homère, le romantisme d'Hölderlin, la poésie maudite de Baudelaire ou celle de Pessoa, tous ces styles et tous ces genres, ce qui les rassemble, c'est la façon dont Debord les lit, qui est profondément poétique.
Qu'est-ce que ça voudrait dire
Il cherche
quand on dit que c'est sa façon de les lire qui relèverait du poétique.
Il cherche à travers ses citations une représentation indirecte du vécu, une représentation habitée par quelque chose de très affectif, un rapport affectif à l'existence et une grande subjectivité. On pourrait utiliser cette citation qui est dans Panégyrique, tome 1, cette citation de Guy Debord, donc pour désigner ce qu'il cherche à travers ses fiches de lecture, c'est de quoi auront été tissées en profondeur cette aventure et moi-même.
Oui. Dans quel sens? Pourquoi? En quoi est-ce que ce serait justement ça qui dirait ce rapport poétique?
Parce qu'à travers tout ce relevé de citations, c'est une représentation de lui-même, des aventures collectives, l'international est triste, l'international situationniste qu'il a initié, de tous les mouvements de lutte auxquels il a participé, la nécessité d'essayer de transformer la vie, de repassionner la vie, comme il écrivait dans une lettre à Hervé Falcou. Ce sont tous ces thèmes qui réapparaissent dans chacun des relevés de citations réalisés par Guy Debord.
C'est aussi, ces fiches de lecture, au fond, c'est aussi un mode de vie ou un emploi du temps même, quasiment, une durée en tout cas, qui sont racontées un peu de bord en homme livre. Enfin, il y a une masse de lecture, et encore là, on ne parle que d'un seul volume. Elles disent aussi une façon de lire, c'est-à-dire de ne jamais annoter le livre, en passer par la feuille, par la copie, à la main, le prélèvement. Lire en pensant citation, prélèvement, détournement, est-ce que c'est déjà écrire?
Là, vous me posez une colle sur la méthode. Effectivement, des personnes pourraient annoter les livres dans les marges et pour faire leur propre texte, refeuilleter le livre. Il y a un côté pratique, hein, je pense. Il faut pas oublier que Guy Debord est un autodidacte. Il a créé finalement la formule qui convenait le mieux à sa personne. Voilà. Alors effectivement, le support de l'affiche fait partie de la contingence matérielle du temps. Est-ce qu'il aurait créé des dossiers Word aujourd'hui? Je ne sais pas.
Sans doute.
Non. Mais... Non, sans doute pas. Non. Il n'utilisait même pas la machine à écrire. Mais oui, ces fiches disent quelque chose de sa façon d'écrire, puisqu'elles sont le premier pas de l'écriture, le premier plutôt moment de l'écriture. Conservait donc ces relevés de citations non pas sur les livres qu'il aurait annotés, mais sur des fiches aussi, parce que ça lui permettait d'avoir des dossiers qu'il pouvait transporter avec lui en toutes circonstances. Il a beaucoup bougé, déménagé, il voyageait et il ne pouvait évidemment pas à chaque fois transporter l'intégralité de sa bibliothèque, mais à travers ses fiches, qui, vous le disiez tout à l'heure, sont comme sa bibliothèque intérieure, en tout cas sont plus représentatives de tout ce qu'il aura lu, de tout ce qu'il a lu que sa bibliothèque physique elle-même, ces fiches-là, donc ces citations sous la forme de petites fiches, c'était un matériau constamment à disposition. Et elle sous-tend l'ensemble des citations qui l'y relèvent, sous-tendent l'ensemble de sa pensée. On mentionnait tout à l'heure la pratique du détournement, mais on voit aussi à travers les commentaires qu'il note sur les fiches de lecture qu'il se positionne donc par complet accord ou par opposition par rapport aux œuvres qu'il cite. Et c'est déjà là le moment de l'écriture de ces commentaires, des commentaires de ces films, de ces œuvres qui ont été publiées.
Oui, alors il paraît évident que lire à ce moment-là, pour lui lire le fait penser, qui le fait écrire, ça va de soi, mais on a aussi le sentiment parfois qu'il qu'il prélève des citations dans les textes qui, au fond, lui permettraient aussi de dire « je », en fait, comme un exercice aussi de reconnaissance de sa propre pensée. Par exemple, quand il va citer « prendre dans les notes de Cravant « il n'est personne qui puisse me comprendre car il serait moi », quand il va, quand il va prélever chez Pessoa « la beauté est le nom de quelque chose qui n'existe pas et que je donne aux choses en échange du plaisir qu'elles me rendent », donc il y a tout un tas comme ça de citations qu'il prélève et qui donnent vraiment le sentiment aussi que, d'une certaine façon, toutes ces citations parlent de Debord.
Alors, en fait, vous venez de donner la réponse à la question que vous m'avez posée il y a 3 minutes. En fait, ce qui est très fort dans cette pratique, c'est que le personnage singulier, voire légendaire, voire mythique, est devenu Debord, et l'exemple même de quelqu'un qui parle de manière extrêmement indirecte et par intermédiaire. Alors vous savez qu'il y a certains écrivains qui se sont dit « je vais écrire un texte qui ne se sera fait que de citations ». Or, ce qui est paradoxal, c'est qu'il écrit pour prendre une position personnelle, subjective, de refus, d'aspiration, de volonté de changement, de volonté d'intervention dans la société qui est la sienne, mais il fait cela en s'armant, effectivement, de tout le corpus des esprits qui l'ont précédé. À la limite, c'est presque une démarche hegélienne en acte, à savoir l'esprit objectif se réalise au fil du temps, et lui, il est à un moment où il fait converger toutes ces voies qui ont précédé et qui vont dans le même sens selon lui, quoi.
Oui, parce qu'il y a, alors je pense à cet extrait très célèbre de la Société du spectacle en 67, où il écrit « Les idées s'améliorent, le sens des mots y participe, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique, il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par une idée juste », qui est un moment qui fait aussi, j'imagine, référence à Lautréamont. Alors vous l'avez évoqué en tout début d'émission, cette façon, qu'on parle de plagiat, de citation, de détournement, qu'importe, c'est une façon de mettre la pensée en mouvement, ou elle se met en mouvement parce qu'elle est en dialogue ou en conflit avec ce qu'elle est en train de lire.
C'est une façon de rattacher ce qu'il est en train d'écrire à aussi une histoire de la pensée. L'œuvre de Debord ne peut pas être dissociée de l'histoire de la pensée dans laquelle il s'inscrit. On le voit bien, vous parlez à l'instant de la Société du spectacle, et quand on parlait tout à l'heure du processus d'écriture, de ce qui se passe, je disais, les fiches de lecture sont déjà sont le moment premier de l'écriture. C'est pas seulement parce qu'il se met à penser, c'est parce que l'écriture du texte se met en route, et à travers la Société du spectacle, on le voit, parce que la Société du spectacle est construite sur un vaste ensemble de détournements. Et donc, ces détournements-là, c'est pas seulement une façon de prendre... C'est pas du tout une façon juste de prendre chez les autres et puis de changer quelques mots. C'est vraiment une inscription dans une histoire globale de la pensée qui fait que l'action même de Debord, l'action sociétale de Debord à travers ses textes, n'est absolument pas, est à rattacher à une réflexion préalable. Et on le voit dans le volume Marx Hegel, par exemple, des fiches de lecture, on voit toute cette filiation entre Marx, Hegel, Debord, pour l'écriture de la Société du spectacle.
Alors, puisqu'on parle de filiation, je voudrais juste revenir très rapidement sur Lautréamont, alors qui est présent évidemment dans Poésie, etc., mais pas tant que ça, mais qui est présent quand même, mais qui en tout cas, on est tenté d'y voir une source première et, définitive. Alors, ça n'est peut-être pas le cas. Qu'est-ce que le jeune Debord reconnaît chez Lautréamont d'emblée ?
La pratique du détournement, ça c'est sûr. Alors, par la pratique du détournement, Debord est clairement dans un héritage à la fois surréaliste et, donc avant les surréalistes, un héritage qui vient de Lautréamont. C'est d'ailleurs, comme vous le disiez, de là qu'il tire la citation sur le plagiat, qui est nécessaire.
Est-ce qu'ils en font, pour autant, ils n'en font pas le même usage du détournement ?
Le progrès l'implique. C'est le même usage.
Faut pas oublier que l'œuvre de Lautréamont est amputée. Il est mort si jeune qu'on ne sait pas comment il aurait pu évoluer. Mais c'est vrai que Je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, je ne devrais pas commettre cet aveu. Je connais très très mal Lautréamont, que je n'ai pas réussi à finir, j'espère que ça viendra. Mais dans un article que j'ai publié en liaison avec Debord, j'ai essayé de créer de manière très discrète, parce que j'ai pas voulu me prendre trop de reproches, une sorte de tension à l'intérieur de la poésie, donc si importante pour Debord, entre la poésie lyrique et celle de Lautréamont. C'est-à-dire que celle de Lautréamont, c'est une poésie quand même, enfin, une pratique distanciée de provocation qui s'oppose quand même à tout ce pôle de la poésie qui serait du côté, alors moi, mon travail avait porté sur Hölderlin, mais du côté d'Apollinaire, donc le lyrisme de l'émotion. L'émotion qui est le gage d'une authenticité et du fait qu'on soit au cœur des choses, véritablement, et que le cœur des choses bat justement par l'expression lyrique. Et ce pôle-là de la poésie, selon moi, s'oppose quand même à l'autre pôle de la poésie qui est l'expression de la révolte de manière percutante, comme c'est le cas chez Lautréamont.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et toujours sur France Culture, à la technique Jean-Guilain Meige, à la réalisation June Lauper et avec la collaboration de Thierry Beauchamp. Et aujourd'hui avec nous, Laurence Lebras et Christian Le Guerouet qui rassemblent les fiches de lecture de Guy Debord en 5 volumes, bientôt le 5e, tout récemment le 4e, dont intitulé, comme ça tombe bien, Poésie, etc.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para...
Laurence Lebras, c'est à vous qu'on doit ce choix. Qu'est-ce qu'on entend?
Alors on entend les stances sur la mort de son père de Rodrigo Manrique qui sont interprétées par Paco Ibáñez. Les stances sur la mort de son père est un poème extrêmement important pour Guy Debord. Alors c'est d'abord l'un des plus grands poèmes de la poésie espagnole. Guy Debord en 1960...
Du 15e siècle, si tu
veux. Oui, c'est ça, du 15e siècle, tout à fait. En 1979, Guy Debord a demandé à Gérard Lebovisi de lui trouver à la librairie espagnole de Paris les œuvres de Jorge Manrique. Et en 1981 paraît donc aux éditions Champs Libres la traduction par Guy Debord d'Estant sur la mort de son père. C'est vraiment un poème qui a beaucoup compté pour Guy Debord et dans lequel, en fait, on lit, même ne serait-ce que les premiers vers en français, « Souviens-toi, m'endormis, ressort de ta torpeur, contemplant comment se passe la vie et comme survient la mort par surprise, comment s'enfuit le plaisir, comme après son souvenir nous fait mal et comme alors nous croyons qu'un temps passé, quel qu'il fût, était mieux. » On retrouve dans ce poème absolument tous les thèmes qui sont chers à Guy Debord, thèmes qu'il qui sont issues du lyrisme humain dont il parlait dans une de ses notes préparatoires pour le film Into Room, justement, une note du 9 mai 1976, dans lequel il dit qu'il aimerait pouvoir ramener dans le film tous les thèmes du lyrisme humain, le passage du temps, l'amour, l'amitié, l'action et l'aventure, la violence, l'orgueil et la sagesse. Et tous ces thèmes-là se retrouvent dans ce magnifique poème.
Pourtant, Into Room se termine sur Faute pour la sagesse, il faudra attendre.
Il faudra attendre pour la sagesse, effectivement. On n'y arrive jamais, sans doute, à la sagesse.
En majesté dans poésie, etc., enfin, quand je dis en majesté, c'est-à-dire vraiment richement annoté, Homère, plus étonnant, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, hein, qui ce sont de longues pages de citations et quelques commentaires. Shakespeare, Chateaubriand, L'Âge d'or espagnol, je pense en particulier à Cervantes, hein, qui est richement prélevé et commenté. Très peu de contemporains. Tout juste, un Morsure de l'aube de Benacquista, étonnant, qui se trouve au milieu de ses fiches de lecture. Et puis, évidemment, plus près de lui, les surréalistes. Hein, on n'a pas le temps d'évoquer, il faudrait plusieurs émissions pour parler du rapport de Debord aux surréalistes. Je pense aussi à Dashiell Hammett, enfin à quelques autres. Mais qu'est-ce que cette absence de contemporains raconte ?
J'ai songé justement avant de venir.
Christian Le Guerouet.
Mais j'ai pas encore la réponse. Donc il faudra que vous nous réinvitiez dans quelques temps. Ce que je tenais à dire, c'est que ce qui apparaît là, c'est que Guy Debord n'est pas qu'un auteur politique. C'est-à-dire que ce que tu as énuméré comme liste, Laurence, tout de suite, montre bien qu'il parle également de manière presque métaphysique du drame de la vie humaine, indépendamment même des structures sociales factices qui pourraient venir l'empêcher. Il y a un tragique qui est en dehors de toute société, et donc faire de Guy Debord un penseur uniquement politique, c'est réduire sa portée, son propos. Il y a un mot justement qui échappe ce que j'appelle réduction de la portée politique dans Into Room, un mot très difficile à manier, c'est celui de grandeur. Il y a une grandeur de la vie humaine, il y a une grandeur de la tristesse, et la poésie est justement la façon dont le langage rend hommage à cette grandeur et réussit à conserver cette grandeur en la formulant grâce à une formulation, grâce à un travail. Poésie en grec signifie faire, hein, donc il y a un travail. C'est un travail qui permet à cette grandeur d'être inscrite. Et la poésie, la formule poétique, est comme un écrin qui permet à cette grandeur de briller et de ne pas être éteinte par le langage courant de la quotidienneté et du service que doit rendre le langage, donc qui est asservi, hein, aux besoins quotidiens. Donc la poésie permet à cette grandeur comme je viens de le dire, de briller, de se maintenir dans cette illumination.
Qui serait comme une réalisation, et j'ajoute que dans la postface, hein, qui est une longue postface aussi qu'on n'a pas citée de Gabriel Ferreira Zacarias dans Poésie, etc., qui parle de ses fiches de lecture justement comme grosse artillerie. La librairie de Guy Debord, Poésie, etc., apparue aux éditions de L'Échappée. Je signale que le quatrième volume, hein, Histoire, vient juste de paraître, toujours aux mêmes éditions. Laurence Lebras et Christian Le Guerouet, merci infiniment à tous les deux. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter et partager sur l'appli Radio France. Poésie ainsi de suite s'écoute en partenariat avec La Croix Lebdo, et comme chaque semaine, un poème pour la route vous attend en kiosque et dans vos oreilles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.